enseignante dans le premier degré, je suis remplaçante. Et depuis le début de l'année, il n'y a pas une école dans laquelle je passe, où il n'y a pas une équipe en souffrance, où il n'y a pas un problème vis-à-vis de l'inclusion scolaire, où il n'y a pas des équipes qui dénoncent le mépris de notre administration, où il n'y a pas des gens qui manquent, des postes qui ne sont pas pourvus, ou des personnes qui n'ont pas été remplacées depuis deux jours, une semaine, où les parents viennent demander des nouvelles, mais quand est-ce que mon enfant aura cours ? Il n'y a pas une seule équipe aujourd'hui, une seule école qui peut se targuer d'être indemne face aux injonctions de notre ministère.
Bonjour pour ce nouveau numéro de Rien à voir. Je vous propose un reportage enregistré à Nantes le 13 janvier 2022 lors de la manifestation des enseignants et plus largement des personnels de l'éducation nationale.
Annabelle Catoni, co-secrétaire départementale du SNUIPP-FSU. Nous sommes là parce que l'école craque, parce que l'école a besoin de moyens pour que nous, enseignantes et enseignants, fassions notre travail correctement. Et puis pour que les élèves aient des enseignements le plus correct possible. Nous, on a commencé la mobilisation avant Noël. Il y a eu deux mobilisations, une à Saint-Herblain, qui a été initiée par les enseignants et les enseignantes de Saint-Herblain. Et puis après, nous avons, nous, pris la relève dans tout le département pour réclamer des moyens pour l'inclusion. Et puis, cette grève d'aujourd'hui, elle avait été décidée en amont par l'AG, justement, de décembre. Et la crise du Covid, j'allais dire aidant, mais bien sûr que ça n'aide pas, cette manif, elle est devenue nationale. Parce que la gestion de la crise Covid, elle est, j'allais dire, nulle. Oui, bah, elle est nulle. Et puis, c'est surtout le mépris, là. Les enseignants et les enseignantes, on en a tous marre. Et puis, tous les personnels hein, du système éducatif français, on en a marre d'être méprisés par notre ministre. Donc, c'est pas nouveau. Mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, voilà. Nous, on est dans la rue pour réclamer des moyens pour l'école inclusive, mais pour l'école en général. On est dans la rue pour pouvoir faire notre métier correctement et être soutenu par notre ministère et pas être totalement méprisé, avoir des protocoles qui se multiplient, qu'on a la veille de la rentrée dans les médias privés. Enfin voilà, là il y en a plus que marre, quoi.
Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs auditrices savent ce que c'est que l'école inclusive.
Alors, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, il y a des structures qui sont mises en place pour elles et eux. Mais ces structures manquent de moyens. Par exemple, il y a des instituts médicaux et éducatifs qui doivent recevoir des enfants qui ont besoin de soins particuliers. Et là, il y a de moins en moins de places. Et c'est des enfants qui se retrouvent dans nos classes. Alors avec, en plus, ce qui se passe autour de nous, c'est des enfants qui sont de moins en moins bien, qui peuvent avoir beaucoup d'angoisse, enfin bref, donc qui sont quasi ingérables dans les classes, mais ils sont en classe. Il y a des enfants qui ont besoin d'enseignants spécialisés qui font partie des RASED, des réseaux d'aide spécialisés. Et les RASED ne sont pas abondés ou alors ils ont trop d'enfants à prendre en charge parce que depuis la situation du Covid, là, il y a de plus en plus d'écarts qui se sont creusés. Et puis il y a des enfants qui ont encore plus besoin d'aide, que ce soit d'aide rééducative ou d'aide éducative. Donc là, il n'y a pas assez d'aide qui leur est fournie ou alors c'est du saupoudrage. Donc nous, on a besoin que ces enfants soient pris en charge sur le temps scolaire pour les aider à récupérer dans leurs apprentissages, plus tous les autres élèves, quoi. Et puis, il y a aussi le problème des AESH. Donc ce sont des personnes qui sont embauchées pour suivre des élèves qui ont une notification MDPA, donc la maison du handicap. Et ces élèves-là sont inclus dans nos classes et ils ont une aide à côté d'eux, donc pour les aider à travailler, enfin bref, pour plein de choses. Évidemment, ces personnels-là ne sont pas formés. C'est des personnels qui sont encore plus méprisés que nous, puisque eux ont un salaire, mais indigne, puisqu'elles n'ont pas un temps complet, je dis elles, parce que ce sont souvent des femmes. Donc c'est du travail précaire, avec même pas le SMIC parce qu'elles ne sont pas à temps complet. Donc évidemment, ce n'est pas un travail qui fait envie. Donc quand on va sur le site de l'inspection académique, on voit que l'annonce pour recruter des AESH, elle est toujours sur le site depuis septembre. Donc ça veut dire qu'il manque d'AESH, ça veut dire qu'il y a des enfants qui nécessitent une aide, mais qui ne l'ont pas. Il manque d'enseignants, parce que vous voyez que là, avec la crise du Covid, et bien avant, il n'y avait déjà pas assez de remplaçants-remplaçantes. Donc là, il y a des jours d'enseignement qui sont perdus pour de très nombreux élèves. Il y a aussi une petite annonce sur le site de l'inspection pour recruter des contractuels, donc des gens qui n'ont pas de formation d'enseignant et qui vont être mis devant des classes. Et puis, quand la crise sera finie, ben, on les remerciera bien gentiment. Et on recrute aussi des retraités aussi, ça c'est nouveau. Donc voilà, il y a au moins ces raisons-là d'être en colère, plus tout le reste, quoi. Plus la casse du service public en général. L'éducation nationale, bah, service public, ça rejoint l'hôpital. Hein. Il y a une vraie volonté politique de mettre à mal le service public.
Écoutez, là, nous représentons aussi les parents d'élèves, la FCPE, et je pense qu'aujourd'hui, on est tous rassemblés, et je pense que c'est assez inédit d'avoir un tel rassemblement de syndicats, des parents, des différents corps de l'enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est aussi le résultat. Il n'y a pas seulement la crise du Covid, il n'y a pas seulement Omicron. C'est que ça fait des années qu'on demande plus de moyens pour l'école, et même depuis le début de la crise. Et que là, aujourd'hui, c'est quand même l'expression d'un ras-le-bol et on est arrivé au bout d'un truc. Et si on est là, c'est ce qu'on disait, c'est que ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Hein. C'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions pour se faire entendre les uns et les autres. Et je pense que c'est très important, cette mobilisation. Et je remercie tout le monde d'être présent. Et nous aussi, parents, on vous soutient. Totalement. Merci beaucoup.
Vous êtes dans quelle discipline ?
En français, en collège. Et j'ai froid, parce que je fais cours avec les fenêtres ouvertes, donnant sur la cour, les portes ouvertes, en courant d'air, les gamins avec les manteaux. C'est pas des plus confortables pour eux, des plus sécurisants non plus. Donc c'est pas optimal. Après, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, de toute façon, on peut pas faire grand-chose à part leur faire le gel sur les mains, toutes les mesures barrières, mais c'est compliqué. Puis on passe la majeure partie de notre temps à leur demander de remettre le masque au-dessus du nez. Et c'est vrai que c'est quand même assez violent pour eux quand même, parce qu'ils mesurent pas nécessairement pourquoi des grands leur demandent ça et puis leur volent un bout de leur jeunesse, quoi. Comme on est en pénurie de surveillants qui sont covidés, on est contraint de surveiller la cour nous-mêmes, les enseignants. Et puis on voit des scènes qui donnent envie de pleurer, quoi. Des gamins de 13 ans qui s'embrassent à travers le masque dans un coin isolé de la cour. Rappelez-vous, quand on avait leur âge, les premières amours, on attend autre chose que des bisous à travers deux bouts de tissu, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, on s'adapte.
C'est le témoignage d'un certain épuisement aussi, de votre part.
Épuisement, c'est un peu faible même comme terme, là. Tout le monde est à bout et puis on roule sur les jantes. On roule sur les jantes. L'administration est fatiguée aussi, les chefs ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas grand-chose en vérité. Les parents sont à bout des retournements tout le temps de situations, d'informations qui passent plus ou moins de façon opaque. Donc non, on est sans solution là pour l'instant, mais on fait face, on essaye pour les enfants.
Je suis remplaçant dans le premier degré dans le pays de Ré, je fais partie de la FSU. Je voulais intervenir par rapport au message vis-à-vis des familles. Là je sais que dans le pays de Ré, la journée est très suivie, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres types de mobilisation, mais là comme beaucoup l'ont dit avant, l'exaspération était telle que, en effet, tout ce qui est lié à la Covid, tout ce qui est lié au mépris de notre ministre, se surajoute à toutes les problématiques de l'inclusion faite, moi je dis à coup de hache, sans moyen. C'est-à-dire qu'on entend l'inclusion du moment que c'est fait, peu importe que ça soit bien ou pas. Non, c'est pas vrai, il faut des moyens pour que ça soit bien fait. Donc aujourd'hui dans le PIRE, c'est bien suivi. Alors je sais pas en effet ce qu'il va en être pour la suite. Je pense aux collègues du Robotron qui ont dit que là deux fois leur école était fermée. Qu'est-ce qu'il en sera par la suite? On verra. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas en effet juste avec ce qu'on a fait là que Blanquer va changer toute sa façon de faire vis-à-vis de l'école. C'est un premier signal, c'est déjà bien, mais il y a d'autres choses à mettre en place. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à articuler à des moments donnés d'autres journées de grève et d'autres actions locales. Parce que dans le pays de Ré, on a des collègues qui sont des fois éloignés de Nantes, c'est pas toujours facile. Il y a peut-être des choses à faire à des moments donnés, le mercredi, ou de se retrouver localement pour voir qu'est-ce qui peut être décidé. Et entre autres, je pense que l'information aux familles, elle est primordiale, parce que notre ministre, avec sa loi de la confiance, il a tout voulu faire pour qu'on ne dise pas ce qui dysfonctionne dans l'école petit à petit. Et c'est petit à petit que ça s'est dégradé. On a en effet l'inclusion sans moyens. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé en effet des contractuels qui arrivent en nombre, qui sont parfois plein de bonnes intentions, mais qui malheureusement ne sont pas toujours assez armés. Voilà, donc les élèves sont un peu les cobayes et ces collègues-là motivés, un certain nombre lâchent l'affaire. Voilà, donc il y a plein de choses qui petit à petit se dégradent.
Est-ce que je peux vous couper le sifflet pour répondre à des questions?
Ça dépend. enfants.
À part siffler dans la rue.
Je suis inscrite dans le vignoble. On se mobilise parce que la situation est très compliquée. On a des classes très chargées et avec des enfants qui ont besoin de moyens humains et on ne les a pas. Donc voilà, la situation n'est plus tenable. Donc en plus avec le Covid, bien sûr, les protocoles se sont rajoutés et ça devient une situation qui est très 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 difficile à gérer. Donc enfants sacrifiés, personnel sacrifié, enfin voilà.
La crise sanitaire.
Ça ne fait que mettre l'accent sur les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Ce qui est super, c'est le collectif, mais ce qui est très difficile, c'est de faire vivre une classe qui est plurielle et où on est tout seul dans notre classe. On ne peut plus se restreindre à faire de l'éducatif. On est interpellé par rapport à des enfants qui ont des besoins particuliers. On a besoin de travailler avec le personnel médical, on a besoin de travailler avec tous les corps de métier. Il faut faire évoluer complètement la façon dont on travaille. Et pour ça, on a besoin de moyens humains, on a besoin de se parler, on a besoin de temps pour se concerter, enfin voilà.
Vous n'avez pas eu la tentation de démissionner ?
Non. Par contre, j'ai déjà été en burn-out. Hein.
Jean-Michel Blanquer, on ne laissera pas faire. Tous les personnels sont là, et on veut des postes, et on veut du fric. Et le protocole, on n'en veut pas. Jean-Michel Blanquer, on ne te laissera pas faire. Tous les personnels sont là. Et on veut du poste, et on veut du fric. Et le protocole, on n'en veut pas. Jean-Michel Blanquer, on ne te laissera pas faire. Tous les personnels sont là. Et on veut du fric, et le protocole, on n'en veut pas.
La crise sanitaire, elle est le révélateur du du mépris qu'on subit depuis plusieurs années, c'est surtout ça. Les annonces par la presse, au dernier moment, aucune écoute de ce qu'on fait remonter, voilà, tout ça, ça fatigue.
Le mépris, il a commencé avec la réforme du lycée. Il n'est pas nouveau, le mépris.
On a fait remonter régulièrement tout ce qui n'allait pas et rien n'avance, quoi. Et là, on est tous, alors, profs comme élèves. Moi, je bosse avec les spécialités, les éléments de la réforme. Bah, tout le monde est stressé parce qu'on est dans l'évaluation permanente. On n'est plus dans le... Nous, on a perdu du sens dans notre boulot. Il y a ça aussi qui fait qu'on est dans la rue. C'est qu'on est juste là pour évaluer. On n'a plus le temps de réfléchir avec nos élèves, de les faire penser. Et c'est ça qui explique qu'on est nombreux dans la rue. Et j'ai même discuté, toi-même. Moi, je suis prof d'histoire géo, des collègues de maths, même en maths, et ils ont perdu du sens à ce qu'ils font, quoi. Donc, voilà, il y a tout ça qui s'est accumulé. Et je pense que c'est vraiment... Il y a une focalisation sur un ministre qui, lui, voilà, se fout de notre gueule. Ça, c'est clair.
L'aspect purement sanitaire, dans le secondaire, on le subit moins que dans le primaire. Où les directeurs d'école doivent sans cesse changer les protocoles, etc. Où là, c'est vraiment totalement ubuesque. C'est vrai que nous, dans le secondaire, on n'a quand même pas ce poids-là.
Moi, j'ai 10 élèves d'absents
oui, mais c'est...
à peu près par jour dans mes classes. Ah. Voilà. Sauf que bah, les gamins, quand tu as un examen mi-mars, voilà, cette semaine d'absence, pour eux, ça devient un stress parce qu'ils ont un mal fou à récupérer le boulot qu'on a fait pendant qu'ils étaient absents. Et puis nous, on ne peut pas leur faire un cours en même temps qu'on est avec les autres. Quoi.
Mais le fait que les élèves ne se sont plus amenés à réfléchir, les élèves futurs électeurs, c'est bien ça pour se faire réélire. Donc c'est bien pensé.
Oui. Bon, c'est une extrapolation, on va dire.
Je ne sais pas s'il y a vraiment ça au fond, mais en effet, lire, écrire, compter, avoir de la main-d'œuvre employable, et puis après, on verra pour le reste. Quoi. Ça,
je pense que ça pose
question. Ben, ouais.
On peut voir les choses comme ça. Mais la logique de Blanquer est beaucoup plus une logique de privatisation globale du service public, et notamment de l'enseignement. Je pense que c'est ça la logique, c'est ça l'objectif. Après, les présupposés pédagogiques... c'est autre chose. Mais la volonté, elle est là quand même. C'est un idéologue, ce type-là.
Ça sert d'alibi. Ça sert d'alibi.
Oui, mais comme Jules Ferry, c'est aussi un idéologue.
Bien sûr, c'était aussi un idéologue.
C'est toujours cette question entre l'école, l'éducation et le politique.
Oui, bien sûr.
Et il y a toujours, et même nous, on porte, dans notre façon d'enseigner, on porte, est-ce que je vais dire du politique ? Oui, on a envie d'avoir des élèves qui réfléchissent, qui ont le sens critique. Enfin, c'est quand même ce qui est au cœur de notre métier depuis. Depuis le début. Et c'est là-dessus qu'on travaille, quoi. C'est...
Bah, surtout dans notre matière, c'est quand même, dans tout ce qui est matière sciences humaines, c'est un petit peu quand même le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Bon. Les programmes ne sont qu'un prétexte quand même à une réflexion plus globale sur la société, sur l'histoire, sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, enfin bon.
Jean-Michel Blanquer, on ne laissera pas faire, les AESH sont là. On veut un statut,
hey,
on veut un salaire,
hey,
et les pial on n'en veut pas. Jean-Michel Blanquer, on ne laissera pas faire. Les AESH sont là. On veut un statut, on veut un salaire, et les pial on n'en veut pas.
Vous enseignez depuis combien de temps?
Oh là, moi presque 10 ans.
Ouais, moi aussi, pareil.
Moi, ça fait 17, je crois, 17 ans.
C'était pas comme ça au début?
Oh non, ça se dégrade. Je pense que tout le monde est bien placé pour le dire aujourd'hui. Ça se dégrade, et surtout la direction. Ouh, oui, oui.
Vous, en tant que directrice?
Il faut être très connecté. Les informations arrivent à n'importe quelle heure, soirée, week-end compris. Oui, on devient un peu fou, oui.
Vous êtes là pour faire appliquer...
Oui, mais justement, c'est compliqué pour moi de faire appliquer tout ça. Oui, je n'ai plus envie de représenter ça.
Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Ah ben, je n'en sais rien, moi, ce qui se cache derrière ça. Mais en tout cas, ça ne nous simplifie absolument pas la vie, ni celle des élèves, ni celle des parents. Et nous sommes ceux qui assumons face aux mécontents et en première ligne. Et c'est compliqué, oui, encore une fois, d'assumer. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de remplaçants, il n'y a pas de médecine scolaire, voilà. Et j'en passe. L'inclusion, c'est compliqué aussi. C'est pour ça qu'on est là. Les élèves en difficulté.
En parlant
fort. Oui.
Il y a un moyen, il n'y a pas de moyens. De plus en plus d'élèves dans les classes, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Hein.
Non, et on est censé le faire.
Même si on le veut, mais on ne peut pas.
Et ça a une incidence sur le niveau d'apprentissage des élèves?
Ouais, ça a une incidence surtout sur la gestion de la classe et sur la difficulté du travail de l'enseignant, en fait. Hein. Évidemment, après, on fait comme on peut, hein, mais on ne peut pas faire au mieux. On n'est pas contre l'inclusion, mais l'inclusion avec moyens, avec aide.
Moyen.
Les AESH ne sont pas formés, c'est un statut précaire. Ce sont les seuls qui nous aident dans cette histoire d'inclusion. Mais déjà, il n'y en a pas assez. Bref, rien ne va.
La saturation, on est arrivé à saturation, c'est ça?
Ouais, saturation.
J'ai envie de dire. Collectivement, ça c'est intéressant. C'est une saturation collective, c'est pas un truc chacun dans son coin, là, collectivement. On a beau essayer de s'épauler, de se dire, tiens, on va... Ben non, on peut pas, on peut plus. On peut plus trouver du temps qui n'existe pas. Et des moyens de travail qu'il faudrait réinventer heure par heure, c'est ça, hein? Faudrait presque heure par heure.
Mais il y a eu des alertes en amont.
C'est pour ça, c'est pas nouveau. C'est pas le Covid qui d'un seul coup, nous fait découvrir un système qui fonctionne pas. Le démantèlement du service public d'éducation n'a pas attendu Blanquer. Mais par contre, il est fort, lui. Hein. C'est l'idéologue parfait. Il sait exactement où il veut arriver. Il a quand même réussi un truc, comme on dit, comme le café disait ce matin, le grand chelem. C'est quand même de réunir face à lui, y compris nos instances hiérarchiques, quoi, les chefs d'établissement et les inspecteurs. Ça, c'est pas mal. C'est un beau défi. Donc en ça, on peut dire, ouais, il a réussi.
En janvier, on doit travailler normalement sur la rentrée d'après. Et ben là, pour le moment, on n'a aucune information pour la rentrée d'après. On n'a pas la dotation horaire, on n'a rien. Notre chef d'établissement, elle gère les cas Covid, les cas contacts. Elle passe son temps à ça, quoi.
On sait maintenant ce qu'il ne faut pas faire, clairement.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Déjà, communiquer avec les professionnels par voie de médias interposés, par exemple. Hein, c'est-à-dire des réseaux, des... d'arriver, d'apprendre le lundi matin avant d'aller bosser sur BFM, par des collègues qui disent « Ah, sur BFM TV, ils ont dit que... » changer tous les 2-3 jours, c'est pas possible ça. Il faut stabiliser les choses, il faut rassurer les gens. C'est quand même un truc de fou ça, d'avoir considéré qu'on peut changer. Tiens, demain je change de protocole. Alors on va faire autrement là. Même d'ailleurs, le dernier changement annoncé par Castex et pas par Blanquer, hein, lundi soir, on s'est dit, tiens, la FCPE appelle à soutenir ce mouvement de grève des enseignants. D'un seul coup, on va redonner un petit truc à bouffer aux parents. C'était ça. On va leur dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller faire la queue à la pharmacie avec leur môme et de quitter leur boulot. Non, tout est du calcul à la petite semaine, là.
Mais attendu que le virus est mutant, le dispositif doit muter aussi.
Ouais, c'est vrai, on n'est pas à la fin de l'alphabet. Hein. Omicron, c'est pas la dernière lettre. Honnêtement, moi, je me sens pas compétente pour ça. J'en sais rien, mais il y a des choses qui doivent être stabilisées. C'est pas difficile. Là, on a tous notre masque, presque. C'est un truc stable, ça. C'est pas difficile. Il aurait peut-être pu y en avoir d'autres, des trucs un peu stables comme ça. On sait rien. L'histoire de dire, ce gamin-là, il quitte la classe, il fait un test, il revient parce qu'il est négatif, puis ça, on va pire. Non, ça va pas. C'est... Quand même, voilà, ils restent chez eux. Je sais pas, là, on était très partagés parce que l'année dernière, on a beaucoup souffert et les gamins ont beaucoup souffert de la fermeture des établissements. Ça a tellement été violent pour les gamins déjà à l'écart des codes et du système que on n'était pas partisans de ça, évidemment. On a partagé plutôt l'idée de laisser ouvert, mais pas à n'importe quel prix non plus. Pas avec des allers-retours comme ça, pas n'importe comment, quoi. Mais bon, on n'est pas médecin, hein. Je sais pas.
C'est pas une gestion à la petite semaine, c'est une gestion au jour le jour. Donc, comment voulez-vous que les chefs d'établissement, quand il y a une annonce le soir à 20h, ils soient opérationnels le lendemain à 8h, il faut qu'ils potassent les nouveaux protocoles, savoir qu'est-ce qu'ils vont devoir dire aux familles si le gamin est qu'à contact, etc.
Si on est en situation de crise, je sais pas, s'il y a un incendie, un tremblement de terre, on est bien obligé de prendre en urgence des dispositions. Et de les faire appliquer.
Non, on sait quand même, ça fait 2 ans qu'on est dans ce merdier-là. C'est pas nouveau, mais ça n'a servi à rien, l'expérience n'a servi à rien. Donc qui s'appelle Omicron, Delta, Gamma, Alpha,
les précautions au niveau des établissements, on les prend. Enfin, quand notre chef d'établissement, elle avait décidé en début d'année, par exemple, y aura des masques dans la cour pour tout le monde. Le ministre avait dit non. Voilà, elle s'est fait taper sur les doigts, fallait enlever les masques dans la cour. 3 semaines après, fallait les remettre.
Donné, faut arrêter quoi. Il y a des gens sagement qui ont fermé des cafés. Je rigole. On se dit si c'est pas tenable, par exemple, de boire un coup assis et qu'on a envie d'être debout, il y en a qui ont choisi de fermer des cafés, n'est-ce pas? C'est peut-être une sage décision. Mais nous, on n'a pas cette souplesse-là. On ne peut pas prendre de décision, nous.
Comme si le virus, au-delà d'1m50, il atteignait les gens, mais qu'en dessous, il atteignait pas les gens quoi. Enfin, c'est...
Parce que les protocoles, faut les vivre, hein. Faut les vivre. Quand on est au deuxième étage et qu'à toutes les heures de cours, on redescend chercher une classe, on accompagne, on remonte. On a tous arrêté nos abonnements aux salles de sport. Voilà, on bouge. On n'a pas le temps de s'en occuper, les gamins. Ceux qui vont mal, ceux qui ont des choses à exprimer, on n'a plus le temps de leur parler. On parlait avant, entre 2 heures de cours, quand une classe partait et une autre arrivait. Maintenant qu'on les accompagne partout, on voit bien les petits derniers qui traînent à la fin de l'heure, qui ont envie de causer, on ne peut plus là. Ça, c'est des petits moments, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas institutionnel, c'est pas... Non, c'est des petits trucs qui font que cette expression-là, elle est perdue, quoi, déjà.
Doublement concerné. Un, je travaille dans un lycée, donc je vois un peu la pagaille que ça met, sérieusement. Deux, je suis parent, je vois aussi qu'est-ce que ça donne, et j'ai eu droit à des choses, tiens, je te file cette petite anecdote, ma fille, positive au Covid. Donc obligatoirement, je suis cas contact, je pars, je me fais tester, je suis négatif. J'appelle quand même pour savoir qu'est-ce que je dois faire, parce que là, je vis avec quelqu'un qui a la Covid à la maison. Ben, on me dit quand même de revenir au travail. Donc, les responsables d'établissement, les professeurs, et puis même nous, les agents, on ne sait plus. On navigue à vue, honnêtement. Puis en plus, quand il y a tous les 2-3 jours, une nouveauté, une fois par le ministre de la Santé, une autre fois par le ministre de l'Éducation nationale, si ce n'est pas le Premier ministre, ça devient un peu trop. Ça devient un peu trop.
Ce reportage a été enregistré à Nantes le 13 janvier 2022 lors de la manifestation des enseignants et plus largement des personnels de l'éducation nationale. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont librement exprimés.
Vous êtes en dernière ligne, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la traîne d'un mouvement?
Bof. Très envie de répondre à cette question, moi je me sens pas trop à la traîne quand même, pas exagéré, même si je suis en fin de carrière. C'est pas très positif tout ça.
Au début ou à la fin, l'important c'est d'être là. Hein.
Ah, voilà le bon mot.
Ce sera mon mot de conclusion.